Lieu de violence, lieu de suicide, annexe de l'hôpital psychiatrique. Dans le rapport annuel de la CIMAD et des associations habilitées à intervenir dans les centres de rétention administrative, les mots sont forts pour dénoncer la situation de celui de Corne-Barrieux, c'est au nord de Toulouse. Alors on va faire le point avec Léo Claus de la CIMAD, cette association d'aide aux migrants. Bonjour Léo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le coordinateur de la CIMAD au centre de Corne-Barrieux où 4 bénévoles interviennent régulièrement. Alors je vais donner une rapide définition de ce qu'est un centre de rétention administrative. On dit souvent un CRA. Avant d'y revenir plus en détail dans notre entretien, c'est un lieu où sont retenus les étrangers auxquels l'administration ne reconnaît pas le droit de séjourner sur le territoire français. Vous êtes d'accord avec cette définition?
Tout à fait.
Il y a 126 places au centre de rétention de Corne-Barrieux. 1302 personnes y ont été enfermées en 2018, retenues, parce qu'on ne parle pas de prison en réalité. Ce matin, je vous propose de voir ensemble, de nous aider à découvrir ce qu'est un CRA, de ce qui s'y vit et dans quelles conditions. Et alors d'abord, j'aimerais qu'on s'attarde à ce rapport. Il y a eu des mots forts, un relais médiatique très important, des témoignages qui décrivent l'enfer. Léo Claus, la situation du CRA de Corne-Barrieux, est-ce qu'elle est particulière ou à l'image de ce qu'est un CRA dans les centres, enfin ailleurs en France?
Non, elle est tout à fait à l'image de ce qui se passe à peu près partout.
Ouais.
Peut-être que la CIMAD communique un petit peu plus, on va dire, sur ce qui se passe dans les centres sur lesquels elle travaille.
Mmh.
Je reviens juste sur ce que vous avez dit au départ. Nous sommes 4 salariés. Moi qui est salarié et des bénévoles. Nous sommes 4 salariés et il faut bien ça.
Précision faite. Voilà.
Après, non, la situation est exactement la même dans tous les centres de rétention. C'est une politique de reconduite et de reconduite à la frontière qui est nationale. Ça crée les mêmes effets partout, de toute façon.
Mmh. Et alors, sur quoi porte l'essentiel de votre indignation dans ce rapport?
L'essentiel de l'indignation, c'est sur l'indignité avec laquelle, alors, je rappelle, et comme vous l'avez dit d'ailleurs, que on dit que ce n'est pas de la prison, que c'est pas de la détention, mais de la rétention. En pratique, c'est vraiment jouer sur les mots, puisque c'est exactement ça. Il faut savoir que c'est quand même un lieu dans lequel les personnes sont enfermées plus d'une centaine de caméras qui balayent le centre dans tous les sens, avec un double rang de barbelés pour ne pas s'échapper. Donc, on peut toujours tourner autour du pot, mais finalement, c'est quand même une prison pour étrangers. L'indignation, elle aide sur des tas de choses. Le président Hollande s'était engagé à ne plus enfermer de familles dans les centres de rétention. On est revenu là-dessus et ô combien on pourra y revenir, puisque beaucoup de familles par les centres de rétention, donc c'est un lieu dans lequel il y a des enfants, parfois des nourrissons en très bas âge. On a des personnes âgées, parfois incontinentes, qui peuvent être placées là. Ce n'est pas leur place. On a des personnes, et c'est surtout un des problèmes que nous, on rencontre beaucoup à Corne-Barrieux, des personnes qui sont psychiatriquement très malade. Voilà, donc je veux dire, on a vraiment un concentré de gens dans une précarité sociale, intellectuelle énorme. Et donc du coup, je pense que vraiment, je retire rien de ce qu'on a mis dans ce rapport.
Sans compter effectivement les conditions matérielles, un état de propreté qui laisse à désirer, des choses de cet ordre-là, hein.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, on a un rapport qui vient de sortir là de la Cour des comptes qui parle de 500 millions d'euros pour reconduire les personnes à la frontière. Ce qui est dommage, c'est que là-dedans n'a pas dû être budgété suffisamment ce qui concerne le nettoyage, parce que je vous cache pas que voilà, quand vous travaillez dedans quotidiennement, alors lorsqu'on fait visiter ce centre à des officiels ou à des parlementaires, on fait un nettoyage en urgence, on connaît.
On montre une cellule témoin, une chambre témoin.
Voilà, une chambre témoin. Après, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est très, très, très sale, c'est très dégradé. C'est un centre qui a été créé en 2006. On pourrait se dire qu'il est récent, mais il s'est très, très vite dégradé parce qu'il est construit sur les pistes de l'aéroport, sur une zone qui n'est pas stable au niveau du terrain. Et donc, c'est fissuré. Il y a du carrelage qui a sauté. Enfin, on a l'impression de rentrer dans un lieu qui a déjà plus de 50 ans, alors qu'il en a 13, quoi.
Alors qu'il en a beaucoup moins. Et ces conditions que vous dénoncez donc dans ce rapport avec d'autres associations qui sont elles aussi habilitées à entrer dans les centres de rétention, est-ce qu'elle s'aggrave? Est-ce que c'est de pire en pire? Est-ce que également, il y a une loi qui est passée, qui a été votée en 2018, qui a fait passer de 45 à 90 jours la durée maximale de rétention, est-ce qu'elle est de nature à renforcer le trait, à aggraver la situation?
Ben oui, bien sûr. C'est déjà, nous disions qu'au moment où la rétention était à 45 jours, c'est-à-dire juste avant la loi, c'était déjà pas du tout fait pour des durées aussi longues. Et là, maintenant, on est passé de 45 à 90. Donc, effectivement, il faut que les gens qui n'ont, bien sûr, j'allais dire les gens qui ne connaissent pas ce qu'il y a dans un centre de rétention, ben oui, parce que personne ne peut y rentrer. Donc, effectivement, le grand public ne sait pas ce que c'est.
Et ben justement, vous allez nous aider à nous en faire une idée, hein, parce que des CRAS, des centres de rétention administrative comme celui de Cornebarieux, il y en a une vingtaine, je crois.
Il y en a 26.
26 en France. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire, en tout cas nous rappeler le parcours de ces personnes avant d'arriver là, ce qu'elles y font et après qu'est-ce qui va devenir d'elles?
Alors le parcours est assez simple, hein. C'est le parcours d'un migrant, on va dire, c'est-à-dire que les personnes sont interpellées. Si on prend l'exemple de Toulouse, les interpellations, elles se font pour à peu près 20% sur la voie publique.
Oui, vous dites souvent aux abords, en plus de ça, d'associations telles que la Croix-Rouge, hein, vous dénoncez
des endroits. Un migrant qui arrive en France pour pouvoir faire une demande de titre de séjour a besoin d'être domicilié. Tout le monde n'a pas de famille en France, donc ils ont besoin d'avoir une adresse. Donc il y a des associations qui se proposent, qui sont habilitées par la préfecture pour faire de ce qu'on appelle de la domiciliation. Mmh. Effectivement, c'est l'endroit où les gens vont aller chercher leur courrier. Et ben voilà, nous on a noté effectivement que notamment l'année dernière, énormément d'interpellations sur
avaient lieu là.
Se sont faites à la sortie de ces lieux, puisqu'effectivement, ben la police aux frontières sait parfaitement que c'est là qu'elle va pouvoir trouver des migrants, comme elle les trouve aussi pour une très grande partie à la gare Matabio de Toulouse ou à la gare routière, là où arrivent les bus en provenance de l'international. Mmh. Donc voilà, c'est comme ça. Le parcours après, vous savez, il est très simple. Ce sont des gens qui très souvent sont passés par la mer, par la Méditerranée, sur des bateaux de fortune, en prenant des risques qui sont absolument énormes. Hein. Tout le monde a entendu parler
des
naufrages en Méditerranée. Ils arrivent de Libye et ils arrivent en général par l'Italie, ou de plus en plus, vu la tendance politique du ministre de l'Intérieur italien, maintenant ils arrivent beaucoup aussi par l'Espagne. Ils ont repris ce vieux chemin migratoire qui était celui dont on a beaucoup entendu parler lorsqu'on en est parlé de Ceuta, de Melilla. Ils arrivent beaucoup, beaucoup par là, en prenant les mêmes risques. Hein. De toute façon, Gibraltar, c'est très compliqué à passer. Et voilà, ils arrivent là sans rien, finalement. Et bon an, mal an, beaucoup sont interpellés dès le départ, donc au passage de la frontière entre la France et l'Espagne, et sont amenés directement au centre de rétention de Cornebarieux.
Et alors, elles sont, parce que en réalité, un centre de rétention, c'est le lieu, normalement, c'est ce qu'on disait dans notre définition de départ, où l'administration place des personnes à qui on ne reconnaît pas le droit de séjourner. Est-ce que c'est aussi un temps pour étudier leur situation?
Alors, ça ne devrait pas être le cas. Comme vous le dites très justement, un centre de rétention est un lieu dans lequel on va enfermer des personnes qui sont normalement destinées à être reconduites à la frontière,
ouais.
Et on ne peut les enfermer que pendant pour la nécessité de cette opération de reconduite,
ouais,
à la frontière. Or, on voit bien depuis 2018 avec une première réforme de la loi qu'aujourd'hui on a des demandeurs d'asile qui sont enfermés. Quelqu'un arrive en France et il demande protection parce qu'il vient d'un endroit, d'un pays, pour X situation où il est, et raison pour laquelle il est menacé dans ce pays, en général par les autorités de son pays, et ben cette personne, on va la placer en rétention administrative alors même qu'il est demandeur d'asile.
Mmh,
quoi.
Voilà,
c'est ce qu'on appelle la réforme sur ce qu'on appelle Dublin 3, c'est un peu technique,
oui,
mais c'est ça. Donc en attendant de décider grosso modo ce qu'on va faire d'elle. Voilà la forme de protection qu'apporte la France aujourd'hui aux migrants.
Et donc avec, vous nous l'avez dit, hein, des femmes et donc des enfants et des très jeunes enfants. Hein.
Oui, on a eu là, c'est un exercice toujours difficile de parler d'un rapport, parce qu'effectivement c'est le rapport 2018, mais en même temps, on
ne
peut pas faire autrement,
ouais,
que de parler des 6 premiers mois de 2019.
Mmh.
Et là, je résiste pas à vous donner les chiffres, puisque pour 2018, on avait eu 13 enfants et à peu près autant de familles. Aujourd'hui, on est, pour une année entière, aujourd'hui, déjà pour les 6 premiers mois à peine terminés de l'année, on est déjà à Cornebarieux à 15 familles et 30 enfants. Et parmi ces enfants, un enfant de 2 semaines.
Un nourrisson, oui, j'ai vu ça.
Semaines,
et vous, CIMADE, alors vous me l'avez dit, hein, 4 salariés de la CIMADE. La CIMADE, c'est une des rares associations à pouvoir entrer en rétention. C'est quoi votre mission auprès de ces personnes concrètement ?
La mission, il a fallu se battre bec et ongles avec les différents ministres de l'Intérieur successifs depuis maintenant longtemps. Moi, ça fait 20 ans que je travaille en rétention, pour arriver à garder cette mission qui est une mission d'assistance aux droits des personnes. C'est-à-dire qu'on est là pour recueillir leurs témoignages, leur situation, les documents, rentrer en contact avec leur famille et évaluer avec eux les chances que l'on a de faire un recours devant un tribunal administratif, devant un juge des libertés et de la détention. Donc on est vraiment des
assistants.
On est des juristes. J'ai tendance à dire souvent on est des urgentistes du droit, puisqu'il faut pas perdre de vue que si la rétention s'allonge, la durée de rétention, par contre le temps pour lequel les personnes, durant lequel les personnes peuvent faire des recours, reste de 48 heures.
Et oui, très court.
48 heures d'heure à heure, hein, s'ils le font à 49 heures, c'est irrecevable. Donc effectivement, nous sommes des urgentistes du droit, donc notre travail, dès qu'on arrive le matin au centre de rétention, 6 jours sur 7, c'est d'aller chercher les dossiers des personnes fraîchement arrivées la veille au soir ou le matin et de se dépêcher de les recevoir et de voir avec eux ce qu'il est possible de faire au regard du cadre législatif pour faire un recours.
Et bien justement, votre objectif c'est quoi ? C'est de faire respecter la loi ou d'empêcher coûte que ces personnes quittent le territoire ?
Alors, la CIMAD s'est prononcée il y a maintenant quelques années, mais elle l'a toujours fait, mais vraiment formellement quelques années, pour dire que le but ultime de la CIMAD, c'est la fermeture des centres de rétention. J'y tiens et je le rappelle, c'est fermer ces lieux de privation de liberté où sont enfermés des gens qui n'ont commis aucun délit, si ce n'est celui de ne pas avoir de papier.
Ça, c'est votre action de plaidoyer.
Voilà, ça c'est le plaidoyer. Après, effectivement, au jour le jour, notre travail c'est effectivement de faire sortir le maximum de personnes de ces lieux de privation de liberté. On est là, on n'est pas là pour dire oui, non, cette personne a le droit d'avoir un titre de séjour. Ça c'est une autre partie, c'est ce qu'on appelle l'entrée, c'est ce qu'on appelle le séjour. Nous on est sur la reconduite à la frontière. Donc effectivement, on peut se poser la question de savoir si quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a aucune crainte de retour dans son pays à vocation à rester ou pas, ça c'est autre chose, c'est un débat très très long et lourd sur le droit de circulation et d'installation, c'est là on rentre dans un débat qui est très long. Nous c'est pas vraiment notre problème, nous en fait des personnes sont interpellées, elles sont privées de liberté, elles sont stressées au point.
Et oui, justement, j'allais vous demander, elles sont dans quel état ces personnes?
Très, 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 très souvent dans un état de stress incroyable. Il faut savoir que le centre de rétention est sur les pistes de l'aéroport de Blagnac. Donc, en fait, les cours, on va appeler ça des cours de promenade, sont en fait des cours très petites qui sont entièrement grillagées. Ce qu'elles ont comme horizon n'est que du grillage, puisque même le toit des cours est finalement un grillage. C'est ultra sécurisé. Et à travers ce grillage, ce qu'elles voient, c'est les avions qui décollent à quelques mètres,
à
30 mètres des cours.
Et qui menacent de les embarquer.
Hein. Vous imaginez bien qu'à chaque fois, elles se demandent si cet avion qui se pose ou qui décolle sont pour elles. Elles sont dans un état de stress énorme. Il n'y a quasiment aucune occupation qui est prévue à l'intérieur du centre de rétention. Il y a 5 secteurs, un secteur pour les femmes, un pour les familles et 3 pour les hommes. Et à l'intérieur de chaque secteur, il y a un poste de télévision que les personnes ne peuvent pas commander elles-mêmes, hein, puisqu'en fait c'est au poste de police à l'entrée que la télécommande pour ces télévisions est activée, ce qui fait qu'en fait elles sont destinées
à l'ennui. C'est vraiment
l'ennui
qui les...
Les télévisions, il faut quand même bien imaginer, c'est une télévision qui est fixée à 3 mètres du sol derrière un plexiglas. Vous voyez, en face il y a un banc et les gens s'assoient et regardent. Et c'est la seule occupation qu'il y a. Il y a une table de ping-pong qui est dans la cour.
Merci beaucoup.
Il n'y a rien.
Merci, on a bien compris l'ennui qui guette ces personnes. Merci beaucoup Léo Clos. Je rappelle que vous êtes le coordinateur à la CIMAD qui intervient au centre de rétention de Cornebarieux. Puis je donne cette petite information aussi, le 20 juin prochain, c'est la journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, le CCFD Terre Solidaire 31 organise une action symbolique, la remise des prix des Barbelés d'or. C'est au jardin Compense Caffarelli à Toulouse à 12h. Un grand merci à vous.